Du lundi 3 au mardi 4 février 2003, une lueur d'espoir au milieu du masque de pollution de Cotonou. Nous attendons de recevoir les pièces de réparation de Noisette pour prendre le départ. Les journées sont rythmées par les sonneries de l'école qui nous héberge. Pendant les récréations, nous partons faire quelques tours en tandem avec les plus jeunes. Je m'initie au torball, le football des aveugles. Le terrain est légèrement plus petit qu'un court de tennis. Deux cages se font face. Au milieu, un fil est tendu. Des grelots font résonner chaque mouvement de la corde. Le ballon a juste la place de rouler dessous. Chaque équipe est composée de 3 personnes. J'ai droit au même équipement que les malvoyants. Un bandeau pour me masquer la vue. Chacun est mis sur un pied d'égalité, ou presque. Le jeu commence. L'un de mes coéquipiers lance de toutes ses forces le ballon. La corde n'émet aucun son. Je n'ai pas le temps de réaliser grand-chose avant que le ballon ne me heurte avec force les genoux. L'équipe adverse l'avait déjà réceptionné et renvoyé. J'étais resté aux aguets, tentant de localiser le ballon à l'aide d'un seul sens, l'ouïe. Autour du terrain, les élèves encouragent majoritairement l'équipe du Yovo. L'arbitre compte les points. 1-0, 2-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. Le ballon me frôle à plusieurs reprises pour s'engouffrer dans les cages. Il me touche même. J'ai marqué un but contre mon camp. Ma pauvre équipe est mise à rude épreuve, à cause du débutant que je suis. Nous perdons la partie. Mes coéquipiers ne sont pas déçus. Ça les amuse beaucoup d'avoir joué avec un Yovo voyant. Je rigole avec eux de mes maladresses. Lookman nous permet d'assister à une répétition de la troupe de théâtre à laquelle il appartient. Les acteurs découvrent le texte qu'ils joueront sur scène dans quelques semaines. Les doigts glissent sur les feuilles en braille. Les têtes sont concentrées, le front crispé. Chacun doit lire sa partie à haute voix en mettant l'intonation nécessaire. La main doit devancer la voix afin de donner quelques fractions de secondes d'avance au cerveau pour traduire ces points imprimés en relief. Chacun trébuche à un moment ou à un autre. Aristide, auteur du texte et metteur en scène, les reprend. Il explique le sens du texte quand il le faut. Exigeant, il demande à chacun de répéter ses répliques. Les doigts se remettent au début de la ligne. Au fur et à mesure, ils caressent de plus en plus vite le relief. La voix prend de l'assurance. Le texte s'apprivoise progressivement. L'un des acteurs me surprend. Il n'utilise pas sa main pour lire le braille, mais ses yeux. La tête penchée sur la feuille, il reconnaît le relief des points avec la vue. À la fin de la répétition, Jean-Christophe et moi discutons avec Aristide. Cette troupe nous étonne. Cette activité s'inscrit dans un programme scolaire ou universitaire particulier? Non, ceux qui viennent sont ceux qui veulent faire du théâtre. Nous sommes tous bénévoles. Vous ne gagnez pas d'argent en jouant ainsi? Lors de certaines représentations, nous partageons la recette. Généralement, ça nous permet tout juste d'organiser un bon repas. Dehors, le groupe de musique répète. Un peu plus loin, des athlètes s'échauffent. Aucun n'est rémunéré pour ses longues heures de répétition ou d'entraînement. Bénévole, ce mot résonne dans ma tête. Pour la première fois en Afrique, je découvre des jeunes qui s'investissent dans des activités sans chercher à gagner de l'argent. Sont-ils plus aisés que les autres? Nous avons été invités à dîner dans les familles de certains d'entre eux. Je ne pense pas que ça soit le cas. Certes, ils sont citadins et n'ont pas à travailler dans les champs. Pourtant, ils ne semblent pas plus privilégiés que la plupart des jeunes rencontrés depuis le Maroc. L'investissement qu'ils font dans ces activités porte ses fruits. Isidore nous raconte leur succès. Notre troupe de théâtre intéresse. Une équipe de Faut pas rêver, programme télévisé de France 3, s'est déplacée pour faire un reportage. Depuis, nous sommes régulièrement amenés à nous déplacer en Europe pour participer à des festivals de théâtre. Lors de l'un de ces déplacements, les organisateurs ont offert un bilan optique à chacun des acteurs. Ghislain, non-voyant, a ainsi pu retrouver une partie de sa vue grâce à une intervention chirurgicale en France. C'est celui qui lit le braille avec ses yeux? Oui, c'est ça. Quant au groupe de musique que tu entends, il a enregistré un album grâce à l'intervention du ministère des Affaires sociales du Bénin. Certaines de ses compositions passent en boucle sur les radios. Jean-Christophe et moi nous regardons. Tous ces jeunes sont déjà des stars. Nous avons reçu la pièce de rechange pour Noisette. Tout est prêt pour le départ. Il ne reste plus qu'à accrocher les deux drapeaux, français et béninois, à l'arrière d'un des tandems. Nous inaugurons une nouvelle idée. Imprimer des t-shirts aux couleurs du pays traversé avec notre logo « Raconte-moi la Terre ». Notre passage sera plus visible. C'est aussi et surtout un souvenir de leur aventure à laisser à nos copilotes. Alors que tout se précise, Franck vient nous annoncer qu'il renonce à participer à ce périple. Surpris, nous lui demandons ce qui le fait changer d'avis. « Ma tante trouve que c'est trop dangereux pour moi, je ne peux pas venir. » Je peux sentir un certain regret de la tristesse dans sa façon de s'exprimer. « Et toi, qu'en penses-tu? Tu veux essayer de te joindre à nous? Tu penses pouvoir y arriver ?»« Je pense que oui, mais ma tante me dit que ce n'est pas prudent. Je suis désolé. » « Ta tante n'était pas au courant avant ?»« Non, je ne lui avais rien dit car j'avais peur de sa réaction. Je voulais la mettre devant le fait accompli. »« Pourquoi ne veut-elle pas que tu participes ?»« Elle dit que je ne suis pas suffisamment sportif. Il vaut mieux que je reste à la maison. » Nous avons appris à connaître nos copilotes ces derniers jours. Franck est très réservé. Il semble être résigné. Nous insistons pas. Je fais part à Jean-Christophe de mon impression. Sa tante le couve. C'est pour cela qu'elle ne veut pas le laisser partir. Nous avons le même sentiment. Nous allons en parler à Loukman, il est furieux. Franck a 28 ans. C'est un grand garçon. Il s'est engagé à participer à ce tour. Il n'a pas le droit de changer d'avis comme ça à la dernière minute. Je crois que ce n'est pas de sa faute. Ça a l'air d'être sa tante qui l'en empêche. On ne comprend pas. C'est sa tante qui le prend en charge actuellement. Elle fait tout pour le protéger et va trop loin. C'est un grand garçon, il doit prendre ses responsabilités. Nous commençons à comprendre un peu mieux la situation. Nous allons en discuter avec Théodore, le président de l'association sportive. Ne vous en faites pas, on va facilement trouver un remplaçant. Je ne peux pas m'imaginer chercher un remplaçant à Franck pour l'instant. Sa façon de nous parler, l'intonation de sa voix, révélait clairement un regret, une déception. On ne peut pas le laisser ainsi. Nous proposons une première solution. Allons voir sa tante tous ensemble et essayons de la convaincre. Franck nous avoue qu'il a envie de partir, mais qu'il ne croit pas que sa tante changera d'avis. En entrant chez lui, je suis surpris de découvrir une maison bourgeoise et une dame aux allures BCBG. Cette dernière nous accueille chaleureusement. Nous lui expliquons les raisons de notre visite. Elle nous répond. Je ne peux pas laisser partir Franck. Ses parents m'ont confié sa responsabilité. Il est presque totalement aveugle. C'est trop dangereux de le laisser partir comme cela. Nous insistons. Nous avons parcouru plus de 7000 kilomètres en tandem avec des aveugles. Nous n'avons jamais eu de problème jusqu'à présent. Ces périples ont été pour eux l'occasion de prouver ce dont ils étaient capables. Nous les prenons sur notre responsabilité durant la totalité du trajet. Une assurance les couvre en cas de chute, de maladie ou de vol. Vous n'avez rien à craindre. Nous en avons discuté avec Franck. Il est évident qu'il veut participer. Ne laissez pas cette opportunité lui échapper. Je vous comprends. C'est très gentil ce que vous faites. Je suis cependant désolé. Je ne peux pas le laisser partir. J'enrage dans mon fort intérieur. Comment cette femme charmante et accueillante peut-elle s'opposer ainsi? Je ne peux le laisser partir. Franck a 28 ans. Il veut partir. Pourquoi l'en empêcher? Théodore enchaîne alors sur un long discours. Il insiste sur l'importance du sport dans le développement de chaque personne, en particulier des personnes handicapées. Il termine en la suppliant de laisser partir Franck, pour son bien, pour le bien de l'association sportive des aveugles du Bénin. Je vous promets qu'il reviendra en bien meilleure forme. Ne laissez pas passer cette occasion qu'il a de développer son potentiel. Il aura fallu une longue heure pour la convaincre de laisser partir son neveu. En l'écoutant, je sentais un blocage en elle à l'idée que Franck puisse vivre comme les autres. Il est clair qu'elle lui veut du bien. Seulement, à force de craindre qu'il se fasse du mal, elle lui fait du mal. Lorsque nous retrouvons ce dernier dehors, il est tout content. Nous pouvons partir demain.